Moi, j'ai travaillé à la maternité de Saint-Vincent-de-Paul et je trouve que ça a été une grande chance pour moi. Ça a été mon premier travail, en même temps que la psychiatrie infantile et la chirurgie d'ailleurs. Mais c'est là que j'ai trouvé que peut-être l'expérience la plus complète. Un lieu de vie très extraordinaire déjà, avec tout ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire tout ce qui touche à la naissance, à l'éveil de la vie, qui est très beau et très enthousiasmant. Quand on découvre, même si on a déjà eu des enfants soi-même, c'est pas la même chose d'être comme ça un petit peu en recul et de pouvoir assister à cette éclosion de la vie. J'ai aimé dans la maternité le travail d'équipe beaucoup, avec des sages-femmes formidables, avec qui on avait vraiment des échanges fructueux, des réflexions sur l'accueil des mères, l'accueil du bébé. Et c'était très dynamique pour pouvoir comprendre un peu des situations qui pouvaient parfois être difficiles. Et ça a été vraiment bien avec les pédiatres aussi, qui participaient beaucoup à ce travail. Et puis tout un ensemble de gens très variés qu'on rencontrait dans des situations diverses, allant de la consultation à l'hospitalisation, à la salle de travail, à la PMI après la naissance de l'enfant. Donc c'est forcément un lieu vivant, où on bouge, où on va d'un endroit à l'autre et où on rencontre des interlocuteurs différents. C'est un endroit aussi qui est fabuleux par l'espèce d'ouverture qu'il y a à ce moment-là chez les femmes qui viennent pour accoucher. C'est un moment où on a l'impression que leur défense tombe, on va dire, liée à l'histoire de l'accouchement et à ce qu'elles sont en train de vivre. Et elles sont très disponibles parce que, bon, elles sont un peu clouées dans leur lit après l'accouchement et n'ayant pas beaucoup d'activité, et finalement sont très contentes d'avoir quelqu'un qui vient les voir et de pouvoir parler de ce qu'elles sont en train de vivre. Et à cette occasion-là, bon, j'ai découvert ça dans ce travail, et c'est quelque chose que, pas seulement moi, tous les gens dans les mêmes situations, tous les psychologues connaissent bien, c'est cette capacité qu'a la femme à pouvoir revivre ce qu'elle a vécu dans sa vie antérieurement et le réorganiser autour de cet événement qu'est la naissance du bébé qui vient bouleverser beaucoup de choses, mais aussi qui permet des réaménagements très fructueux. Quand elles ont vécu des choses douloureuses ou difficiles, il peut y avoir beaucoup de réparations qui se fassent autour de ça. Et c'est important d'être là parce que, en même temps, le fait d'écouter cette parole et de pouvoir l'encourager à se dire permet aussi que les choses ne se referment pas trop vite et que ça puisse vraiment bouger. Sinon, quelquefois, il pourrait y avoir aussi le plus mauvais de leur vie qui prenne le dessus. Et donc, d'être là, ça permet de les aider aussi à pouvoir faire que ce soit le meilleur ou en tout cas le bon qui est en train de se passer, qui l'emporte. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment une expérience très riche qu'on ne rencontre pas dans beaucoup de situations, dans beaucoup d'autres situations. C'est très différent des autres services d'un hôpital où habituellement c'est plutôt la maladie qui est là, avec d'autres questions qui se posent et un autre travail très intéressant à faire, mais pas cette espèce de remaniement psychique important qu'il peut y avoir à ce moment-là. Alors, quand on parle de la chance de travailler dans une maternité, ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Alors, l'autre aspect que moi j'ai trouvé très passionnant aussi, auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est celui de la confrontation avec la mort dans la réalité, et puis aussi avec des événements assimilés à une mort de quelque chose en soi, comme la naissance d'un enfant très handicapé quand on ne s'y attend pas. Alors, l'autre aspect que moi j'ai trouvé très passionnant aussi, auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est celui de la confrontation avec la mort dans la réalité, et puis aussi avec des événements assimilés à une mort de quelque chose en soi, comme la naissance d'un enfant très handicapé quand on ne s'y attend pas. Bon, il y a toutes sortes de, beaucoup de choses qui se passent dans une maternité autre que la naissance. Parce que, par exemple, on fait l'accueil des femmes qui viennent pour un avortement. Déjà, c'est toujours une situation douloureuse et qui a quelque chose d'une mort pour elle à vivre. Il y a une chose encore plus difficile quelquefois qui sont les avortements thérapeutiques, parce que ça intervient beaucoup plus tardivement chez les femmes qui souvent sont heureuses d'attendre un enfant, et puis on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de grave qui se passe pour le bébé, et il y a une décision d'interruption de grossesse tardive à prendre, qui est terriblement difficile et douloureuse. Et alors c'est là que le travail de collaboration s'est révélé très intéressant avec les sages-femmes, c'est qu'on s'est rendu compte dans des circonstances de ce genre-là, interruption de grossesse tardive, ou d'autres aussi, comme l'abandon par exemple d'un enfant, les parents vivaient un traumatisme vraiment très très grand, et qu'il y avait quelque chose à aménager autour de ces moments-là très difficiles. Parce que j'ai vu des femmes par exemple revenir très très mal, délirantes par exemple, parce qu'elles ne pouvaient pas assimiler même la perte et la séparation du bébé. Et donc, dans leur délire, c'était comme si le bébé était toujours là, et c'était vraiment difficile. Donc, c'est là qu'on a fait tout ce travail avec les sages-femmes pour, par exemple, l'accueil du bébé mort après l'avortement thérapeutique, donc tardif, et savoir comment on pouvait le présenter aux parents pour pas qu'ils aient un vide complet avec une image encore plus 10 000 fois plus horrible que la réalité du bébé, qui finalement était toujours quand même un bébé, même avec une grave malformation, même il aurait pu paraître un peu abîmé à beaucoup de yeux, c'est toujours pour les parents un bébé. Et si la sage-femme sait le présenter dans ses bras à elle, sans forcer les parents à le prendre dans les bras, en faisant ça avec beaucoup de délicatesse, comme elles savent le faire, à ce moment-là, le parent repart généralement apaisé. Dans notre expérience, ça a été quelque chose de très formidable de voir que les parents étaient apaisés en n'ayant pas eu l'impression d'avoir mis au monde un monstre, ce qu'ils pensaient autrement, quand ils ne voyaient pas le bébé. Et donc, qui rendait très difficile aussi une grossesse suivante avec des peurs très effrayantes, des cauchemars et tout ce qui peut s'en suivre. Et c'est la même chose aussi pour les femmes qui décident pour des circonstances difficiles et douloureuses d'abandonner leur bébé, de le donner pour l'adoption. Ça aussi, on a dû aménager ce moment-là, prendre le temps de parler aux parents, leur laisser voir le bébé au début, alors que ça ne se faisait pas avant et qu'il y avait une coupure radicale qui n'était pas bonne pour le parent. D'ailleurs, à cette occasion-là, parfois, des parents changent d'avis, mais le but n'est pas de les faire changer d'avis. Le but est de leur donner le temps de pouvoir vivre ce moment-là, de prendre leur décision calmement et de pouvoir proposer des aménagements moyens, parfois, où le bébé est placé en pouponnière, où ils vont le voir plusieurs fois s'il le faut, ils continueront à le voir parfois, et d'autres fois pas. C'est vraiment au cas par cas que les choses s'organisent avec chaque famille, chaque parent, mais c'est un travail très important. Alors, bon, le temps dans le cadre de la maternité est vraiment très important, parce que nous avons la grossesse qui est bien bornée par ces 9 mois, c'est long. Parfois, ça paraît très long, mais en même temps, c'est très court. Et il se passe énormément de petites choses pendant toute cette durée de grossesse et aussi des quelques jours après la grossesse, que les femmes quittent très vite la maternité. Et il y a toutes ces petites choses qu'on peut faire pendant ce temps-là ont une extrême importance et permettent justement que plus tard, les choses vont pouvoir se déployer dans un autre temps aussi. Parce que ça aurait été, on aurait été attentif, qu'il y aurait eu un regard porté sur la situation, sur le bébé, sur la mère, sur ses inquiétudes, sur ses souffrances. Et ça ouvre tout un autre temps après, où ce qui se sera passé pendant ce temps-là sera ensuite repensé, retravaillé, seul, inconsciemment probablement, et aussi peut-être dans une démarche auprès de quelqu'un si les choses s'y prêtent bien et que la femme le souhaite. Parce que c'est vrai qu'on revoit aussi des femmes qui ont été suivies pendant la durée de leur grossesse, parfois elles ont besoin de venir encore pendant quelque temps travailler pour les plus fragiles ou celles qui sont le plus en difficulté. Un groupe d'éthique a été créé avec le professeur Badoual, qui a été un lieu de réflexion pour les décisions difficiles. Parce qu'on s'est rendu compte que parfois, quand il s'agit de la décision, par exemple d'une interruption de grossesse, c'est... je dis bien tardive, hein, parce que quand c'est dans le cadre de la loi pour un avortement, c'est y a pas de décision autre que celle des parents. Mais là, quand c'est des décisions tardives, c'est très difficile parce qu'il y a une grande part de subjectivité qui entre dans cette urgence de décision qui est à prendre. C'est-à-dire que les parents vont vivre la malformation, par exemple, du bébé, quelquefois minime aux yeux des médecins, par exemple, mais gigantesque à leurs yeux, et alors, et qui leur fait demander dans l'urgence, comme ça, très vite cette interruption. Et c'est une décision qui est très difficile à prendre, parce que on est obligé à la fois, de comprendre ce que vivent les parents, et puis en même temps, on peut pas accepter n'importe quoi. Alors, où est la limite? Elle est extrêmement difficile à situer. Et donc, on a pensé que c'était bien de créer un comité éthique qui réunissait plusieurs personnes de l'hôpital, pas forcément seulement de la maternité, autour d'un cas, même avec des gens de l'extérieur, une ou deux personnes de l'extérieur, et de réfléchir tranquillement, calmement, à toutes les données du problème, et de les rassembler, et finalement de pouvoir, ensemble, collégialement, prendre la décision. Que ça ne soit pas les parents tout seuls qui se sentent terriblement coupables et sont mal, il faut que ça soit assumé par le corps médical, que ça soit pas une sage-femme qui est souvent au charbon confrontée à la femme qui est en train de qui a cette décision à prendre ou qui est en train de vivre son interruption de grossesse, et que cette sage-femme puisse être soutenue, sache qu'elle est soutenue, qu'elle n'est pas toute seule. Surtout que seul, on peut se tromper aussi. Quand on est plusieurs, on se trompe moins déjà, même si c'est difficile. Et ça, je trouve que ça a été un moment de très intense de réflexion et de progrès aussi dans la prise en charge, finalement, d'une médecine un peu nouvelle tout de même, parce qu'on est confronté à des situations qui n'existaient pas tellement avant et qui sont apparues au cours du temps. Donc à chaque fois, on était un peu dépassé d'abord, et puis s'organiser quelque chose qui permettait de mieux prendre en charge les patientes. C'est très intéressant de voir aussi dans chaque cas l'histoire transgénérationnelle apparaître. Quand une femme vient d'accoucher, c'est rare que ne revienne pas d'abord sa mère. Bonne ou mauvaise, entre guillemets, qui, même si elle n'est pas là présente en chair, en os, est terriblement présente dans le discours de la patiente, avec tout son impact, son poids, de fermeture ou d'ouverture, selon l'histoire de la personne. Et évidemment, quand il y a une mère qui a laissé comme ça une aura très lourde à porter et presque pathologique, il y a des grands-parents au-delà qui ont eu aussi leur rôle à jouer et qui peuvent parfois peser lourdement pas toujours lourdement. Parfois, ils peuvent être aussi des figures de vie ouvertes et qui viennent au contraire sauver une situation difficile. Mais c'est très intéressant de voir comment ce petit bébé qui arrive est porteur de toute une histoire qui remonte sur 2, 3 générations, voire 4 quelquefois, quand on arrive à retrouver les traces. Et ça, c'est très riche aussi, parce que quand on peut aborder toutes ces questions-là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se démêler aussi. Et quelquefois, se retricoter, comme disent certains, mieux, différemment. La question de l'allaitement, c'est une question qui n'est pas simple et qui varie beaucoup au fur et à mesure des générations de mamans qui viennent dans une maternité. Il me semble que quand j'ai commencé, à ce moment-là, l'allaitement n'était pas quelque chose qui était très valorisé. Ça paraissait plus simple donner des biberons, et donc il n'était pas tellement conseillé au moment d'allaiter. Alors il y avait évidemment celles qui voulaient absolument allaiter, pouvaient tout à fait le faire. Mais dans l'ensemble, on a l'impression que c'était considéré comme plus simple, plus hygiénique, plein de choses, de donner le biberon. Et puis après, il y a eu une autre période qui est arrivée de valorisation de l'allaitement. Et à ce moment-là, ça peut être... Il y a énormément de choses qui sont très positives, et je pense quand même que le plus naturel, c'est sans doute qu'une maman puisse allaiter son enfant. Mais c'est très très important de pouvoir tenir compte de la disposition intérieure de la mère. Il y a des femmes qui vont être extrêmement mal à l'aise avec l'allaitement. Elles peuvent être mal dans leur corps, tout simplement. Et avoir à allaiter un enfant alors qu'elles ne le sentent pas, les met dans une situation très difficile dans le contact et l'échange avec leur bébé. Et j'ai vu des mamans pour lesquelles, finalement, on décidait d'abandonner, de les aider à arrêter l'allaitement, et après se retrouver très bien et confiantes avec leur enfant. Alors ça demande énormément de subtilité dans cette approche, de pouvoir se laisser porter par... ce qui se passe avec la maman. Alors c'est vrai qu'il y a des mamans qui ont besoin d'avoir confiance en elles pour pouvoir allaiter, donc il faut les soutenir et les aider dans ce cheminement-là. Moi j'avais été très frappée, peut-être parce que j'ai eu beaucoup de petits frères et sœurs et que j'ai vu beaucoup de fois ma mère allaiter, mais donc la position de l'allaitement me paraissait assez naturelle. Mais j'ai vu des mères ne sachant absolument pas comment se mettre, comment tenir leur bébé, j'en ai vu une fois une qui était quasiment à quatre pattes en train d'essayer d'allaiter son bébé comme la louve de Romulus, et d'autres dans des positions invraisemblables où elles ne pouvaient qu'être mal, et comme s'il y avait quelque chose qui ne leur avait jamais été transmis là. Et ça, je crois que c'est lié à beaucoup de choses, au fait qu'on soit dans des villes, que les familles sont un peu dispersées, qu'elles n'ont pas que les femmes travaillent, sont pressées, toutes sortes de choses qui font qu'il n'y a pas une espèce de transmission spontanée naturelle. Alors je crois que pour les femmes qui allaitent, ça demande de la part des sages-femmes beaucoup d'attention. Elles le font très bien d'ailleurs, et savent très bien aider une mère si elle ne sent pas trop débordée. Parce que le problème dans les maternités aussi, c'est que y a pas toujours tout à fait assez de personnel pour pouvoir être vraiment très présent. Mais c'est surtout une espèce d'attention à comment se sent la femme, comment elle est dans son corps, ce qu'elle souhaite, quelles sont ses peurs autour de l'allaitement, quelles sont les raisons de ses peurs, et puis pouvoir respecter le fait que peut-être, elles ne sont pas faites pour allaiter et que la relation pourrait se passer mieux autrement. Si on avait vraiment le temps, s'il y avait suffisamment de personnes et qu'on pouvait vraiment être présente auprès des femmes dans ces moments-là, et même avec celles qui sont réticentes ou qui ont des peurs comme ça, qui ne savent pas très bien formuler ou qui ne savent pas très bien même pourquoi ça leur paraît difficile d'allaiter, si on pouvait être à côté d'elles, et les contenir comme peut-être elles-mêmes n'ont pas été suffisamment contenues quand elles étaient bébés, et être trois et non pas en tête à tête avec son bébé, qui est quelquefois très paniquant pour une mère, quand elle a l'impression de ne pas savoir faire. Et trois, tout jusqu'à ce que l'allaitement s'instaure vraiment bien, sans doute qu'il y aurait infiniment plus d'allaitement naturel qu'il n'y en a. Mais ça, c'est un travail qui demande du temps et de la présence. Bon, il faut savoir aussi que le travail qu'on peut faire dans une maternité est particulièrement important dans le domaine de la prévention. Vous pouvez, pendant le temps de cette grossesse du prépartum et du postpartum, faire un travail considérable pour empêcher que les femmes se dépriment après. La dépression du postpartum, c'est quelque chose qui est fréquent et qui pourrait, dans beaucoup de cas, être évité en travaillant suffisamment en amont. Alors nous aimions beaucoup, beaucoup pouvoir que les sages-femmes nous adressent les patientes pendant leur grossesse et non pas les voir seulement au moment des suites de couches où là, on a très peu de temps pour agir. C'est important d'être là à ce moment-là. Mais quand on peut suivre une femme le temps de sa grossesse, surtout celle qui, sur lequel on peut sentir qu'il y a peut-être un fond un peu dépressif ou d'une anxiété qui peut tourner en baby blues, comme on dit, c'est vraiment très très important. Alors ce travail, quand on a commencé pendant la grossesse, avant l'accouchement, on le poursuit ensuite de couche et bien souvent, les femmes s'en portent beaucoup mieux. Et je crois que dans tous les domaines, on ne fait pas suffisamment de prévention. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire si on était suffisamment nombreux à pouvoir s'occuper des gens avant qu'ils aillent vraiment mal, que là, c'est un exemple excellent à la maternité de ce qui peut être fait comme prévention, parce qu'en plus, on a le temps de le faire, là, si on s'y prend bien. Pour finir, moi je considère vraiment que c'est un privilège d'avoir pu travailler en maternité parce que on apprend énormément. On apprend énormément de toutes les situations, de la diversité des situations qui sont rencontrées et du cycle de vie qui a lieu dans une maternité. Et encore une fois aussi de cette confrontation à des choses plus tristes ou plus graves, mais qui font partie de la vie et qu'on apprend à assumer soi-même déjà, parce que aller voir une femme qui vient de subir un choc très important, c'est difficile même pour une psychologue, on n'est pas toujours très bien armé pour ça, surtout au début de sa carrière. Et moi je me souviens que bien souvent j'hésitais avant de rentrer dans la chambre d'une patiente qui venait justement d'avoir quelque chose de grave qui s'était passé pour elle. Et alors c'est vrai qu'avec l'expérience on apprend à se situer, on apprend à savoir attendre, on apprend à écouter, on apprend à être contenant, justement, comme on disait tout à l'heure. Et c'est vraiment extrêmement enrichissant pour soi-même et je crois qu'on peut vraiment faire du bon travail avec les patients qu'on rencontre dans une maternité. C'est pour ça que je considère ça comme une chance extraordinaire.